France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Désormais, donc, il y a un terme en train d'entrer dans les conversations, dans les articles, dans les esprits aussi, le mur du 5 décembre. Les syndicats préparent leurs troupes. On a vu récemment que la CFDT Cheminots entrait, elle aussi, dans le conflit. Les usagers s'organisent entre ceux qui viendront travailler à vélo quand ils le peuvent, ceux qui choisiront le covoiturage ou le télétravail. Bref, il ne s'agit plus de savoir si bras de fer il y aura, mais comment traverser ce mur et pour combien de temps. Le temps des concertations se termine aujourd'hui, celui du rapport de force est bien là, autour d'une réforme, donc celle des retraites, qui, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, reste encore floue dans ses contours aux yeux de beaucoup, de l'âge pivot au prix du point, au point que 2 Français sur 3 désormais jugent le mouvement justifié, le tout mélangé à l'impopularité en ce moment de celui qui porte la réforme, le président de la République. Et finalement, ce 5 décembre, alors est-ce qu'on parle de régimes spéciaux uniquement? Est-ce qu'on parle d'une réforme qui ne passe pas? Est-ce qu'on parle bien plus largement? Est-ce que même on parle d'autre chose? C'est aussi ça qui permettra de mesurer la hauteur de ce fameux mur. On en parle ensemble ce soir. Vous le savez, Radio France et France Inter vit aujourd'hui un mouvement de grève. Nous ne pouvons prendre vos appels au téléphone, mais vos mails évidemment sont les bienvenus. Et si vous appelez par habitude au 01 45 24 7000, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un et nous lirons vos questions à l'antenne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première intervention, c'est celle de Claire, donc sur franceinter.fr, et qui nous dit « C'est injuste de ne plus vouloir prendre en compte le fait d'avoir élevé 3 enfants pour les femmes, car c'est mon cas et j'ai donc travaillé à mi-temps pendant 23 ans pour les élever. Imaginez ce à quoi va ressembler ma retraite. » J'en profite pour coupler avec la question de Jean-Luc qui dit « Bonsoir, les femmes qui subissent ces carrières chaotiques interrompues ont souvent des emplois à temps partiel. Elles vont être les grandes victimes du système à points. Est-ce que le gouvernement compte lutter ainsi contre les inégalités hommes-femmes ?» Beaucoup de questions dans ce sens-là, depuis d'ailleurs les calculs de l'Institut de la Protection Sociale qui a un peu refait un certain nombre de calculs. Voilà pour l'entrée en matière et la première question pour y répondre et discuter ensemble jusqu'à 20h. Éric Ayer est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir Rémi Bourguignon.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Est Créteil et votre spécialité, le dialogue social. Et puis Yael Gauze est là aussi, chef du service politique de France Inter. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces deux auditrices? Éric Ayer, par exemple, il y a eu une espèce de moment de panique en fait auprès des femmes, ceux qui avaient eu des carrières un peu hachées, etc. Récemment, avec les nouveaux calculs de l'Institut de Protection Sociale, est-ce qu'il y a une vraie différence aujourd'hui? Est-ce que oui, comme nous l'explique Claire, si j'ai 3 enfants, ça va être plus difficile pour moi au niveau de la retraite?
Alors, on peut reprendre un peu en arrière. Il est vrai que là, aujourd'hui, il y a plusieurs réformes. Il y a la réforme paramétrique, on en parlera. C'est est-ce qu'il faut que ça soit équilibré? Et puis il y avait la grande réforme systémique.
On va y venir. Paramétrique et systémique.
Au sein de cette réforme systémique, en fait, il y a 2 points qu'il faut avoir. Il y a le premier point, c'est qu'il faut unifier tous les régimes, les 42 régimes, on les unifie. Mmh. Et ensuite, mais on va passer au point. C'est-à-dire qu'il faut quand même les distinguer les deux. C'est-à-dire qu'on aurait pu unifier tous ces régimes-là en gardant les annuités et en gardant l'ancienne façon de calculer, mmh, en disant on prend les 25 meilleures années. Là, on a décidé d'unifier et on le fait par les points. Or, quand on le fait par les points, si on fait vraiment du point pur, alors effectivement, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui sont arrêtés soit pour élever leurs enfants, mmh, soit parce qu'ils ont un accident dans leur carrière professionnelle, c'est une catastrophe pour eux. Et donc, quand on regarde le point par rapport à l'annuité, c'est pour ça que l'annuité, on prenait que les 25 meilleures années pour justement enlever les années qui étaient un peu difficiles, soit pour élever, mmh, ses enfants. Donc là, effectivement, en passant au point, on savait qu'on allait faire beaucoup, on allait poser beaucoup de problèmes. Alors, on peut toujours ensuite, avec un système à point, corriger tout cela, essayer de le corriger. Mais vous voyez que là, le problème, c'est que, on veut dire, le gouvernement s'est rajouté un problème. C'est-à-dire que l'annuité, quand on raisonnait en annuité, on n'avait pas ce problème-là. Et donc là, on essaye de prendre en compte cela. Et il est possible que, eh ben, une mauvaise prise en compte, il y ait quand même un peu plus de perdants. Donc oui, on rajoute, en fait, encore plus d'anxiété en passant au point. Il y a des avantages de passer au point. Il y a beaucoup d'inconvénients. Mais on a l'impression que c'est la seule façon d'unifier les systèmes. Alors que non, ce n'est pas du tout la seule façon.
Mais alors, ce que vous dites résonne avec la question de Thomas de l'Isère qui nous dit « En voulant aligner les 42 régimes et donc mettre fin à l'extrême complexité française, est-ce qu'au fond, on n'est pas aussi en train de recréer une usine à gaz par-dessus l'usine à gaz ?» Rémi Bourguignon, est-ce qu'au fond, on va finir d'une exception à l'autre parce qu'il y en aura forcément par recréer une complexité sur la complexité?
Alors, À terme, peut-être que ce système par points pourrait rendre les choses un peu plus lisibles et peut-être les simplifier, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un système qui est particulièrement complexe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à très court terme, ça semble être une usine à gaz, et les questions qui sont posées, on voit bien, montrent les inquiétudes que génère ce changement, parce que à aujourd'hui, il est absolument impossible de savoir exactement qui seront les gagnants et qui seront les perdants de ce système. Donc vous parliez tout à l'heure de cette opinion publique qui est un peu perdue et qui a l'air de soutenir le mouvement. Eh bien, les prochains jours vont être extrêmement importants de ce point de vue-là, parce que c'est là où ça va se clarifier. Chacun va essayer de dire, et pour moi, qu'est-ce que ça change? Et on va s'appuyer sur, effectivement, ces rapports. Donc on a vu le gouvernement réagir extrêmement vite cet après-midi à cette question du rapport de l'Institut de protection sociale, parce que le vrai danger, il est là, c'est de savoir qui sont les gagnants, qui sont les perdants, et donc chacun va se projeter, mais on n'aura pas de réponse claire. Donc c'est cette incertitude qui va faire que la pression va monter dans les jours qui viennent, jusqu'à ce fameux 5 décembre qui arrive.
Et Yael Gauz, est-ce que ça fait peur au gouvernement, au fond, ce fameux mur du 5 décembre? Parce qu'on a bien vu, là, il y a un déjeuner express, on resserre la majorité autour de soi. Est-ce qu'il y a une forme de crainte quand même ou pas au gouvernement en ce moment?
Pas des généraux en chef, j'ai envie de dire. Emmanuel Macron, il a déjà affronté pas mal de tempêtes. Il s'est remis en question après les Gilets jaunes. Il a réformé la SNCF. Il a fait les ordonnances travail. Il a bousculé tout le monde dans la première année de son quinquennat et tous les partenaires sociaux avec, jusqu'à prôner cette fameuse république contractuelle qui aujourd'hui se retrouve un petit peu au pied du mur du 5 décembre. Mais en dessous, sous les côtés députés, côté majorité, c'est une autre question. Est-ce que les députés En Marche, nouvellement élus en 2017, qui sont entrés en politique avec Emmanuel Macron, sont capables d'affronter ce premier vrai test syndical plus classique que les Gilets jaunes, qui était un mouvement beaucoup plus horizontal et difficilement cadré? Là, on est vraiment dans un presque une répétition de 1995. On fera des différences après dans l'émission, j'imagine. Ouais. Mais c'est quand même un peu ça qui se profile en termes de coalition de syndicats sur la défense plus large d'un service public. Eh bien là, est-ce que ces députés-là sont prêts à affronter ça sur le terrain, chez eux, alors que les municipales approchent en mars, dans 3 mois et demi? Ça, c'est toute la question politique du moment. Est-ce que les reins seront assez solides? C'est pour ça qu'il y a ces multiplication de réunions dont vous parliez, Fabienne, que ce soit à l'Élysée, déjeuner ce midi, séminaire ce soir, séminaire encore dimanche prochain avec avec les ministres. Et avec cet inconnu, c'est que le député lambda ne peut pas répondre aujourd'hui à l'auditrice qui nous interpelle parce qu'il n'a pas les clés de la réforme et parce que rien n'est écrit avant l'été 2020.
Mais comme M. Delevoye n'a pas su le faire ici même au téléphone, sonne exactement. D'ailleurs avec des questions extrêmement précises sur « mais alors moi, ce qui va se passer ?» C'est peut-être ça la vraie difficulté, Éric Heyer, au fond, parce qu'on est tous pareils. On a tous été regardés sur les sites, etc. pour voir si on pouvait calculer notre propre retraite. Évidemment, on ne peut pas.
Non, on ne peut pas. Non, mais oui, il y avait une phrase simple pendant la campagne du candidat Macron, c'était « 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits ». Donc voilà, on s'est dit « mais ça va être quelque chose d'ultra simple ». En fait, non, ça ne peut pas marcher. 1 euro cotisé n'ouvrira jamais les mêmes droits. Et donc, on va effectivement mettre des exceptions, etc. Et donc, on aura peut-être un peu moins de régime, mais on aura tout de même un certain nombre d'éléments différents. Et on passe de plus en plus tout de même à un régime qui est plutôt à cotisation définie, c'est qu'on sait combien on va cotiser. À peu près 28%, mais on ne sait pas exactement combien on va gagner à la fin, quelle va être la valeur du point. Et donc, alors on ne savait pas non plus complètement avec le système par annuité, mais un peu plus tout de même. Et donc, ça rajoute beaucoup d'anxiété. Et donc, en fait, dit autrement, on sait qu'il y aura quand même des perdants dans la fonction publique. On ne sait pas s'ils seront compensés. On sait qu'il y aura des perdants, notamment chez les avocats. On ne sait pas comment ils seront compensés. Et ensuite, dans les salariés du privé, comment moi, qui ai passé du temps à éduquer mes enfants, je vais être compensé? Comment moi, qui ai passé quelques années au chômage, je vais être compensé? Et donc du coup, il y a énormément d'interrogations. Et puis surtout, il y en a certains qui vont certainement y gagner, ça on est sûr. Mais vous voyez, il y a en économie comportementale vraiment une idée assez forte. C'est-à-dire que globalement, quand on gagne, on n'est pas trop sensible à la mesure. Par contre, quand on perd, on est extrêmement mécontent. Et donc, c'est sans doute une contrainte supplémentaire que s'est rajoutée Emmanuel Macron, c'est que ça coûte 14 points de PIB et retraite, et pas 0,1 point de PIB de plus. Et donc, puisqu'il y aura 2,7 millions retraités en plus d'ici 2030 et qu'on doit, on ne doit pas dépenser plus, ça veut dire que globalement, il y aura quand même un peu plus de perdants que de gagnants.
François nous dit, je suis fonctionnaire et avancé dans ma carrière, j'imagine travailler jusqu'à 67 ans, je travaille beaucoup et en 15 ans, je n'ai pris que 4 jours d'arrêt de travail. Si le gouvernement rompt le contrat qu'il a avec moi, je ne me sentirai plus lié à la nation. Rémy Bourguignon, est-ce que ça vous paraît conforme à l'état d'esprit, au fond, ce mail de François? Le lien est rompu, le contrat passé est rompu.
Oui, c'est ça, c'est toujours la difficulté avec ce type de réforme qui change un peu le contrat et la donne. Mmh. On est rentré avec un deal quelque part et puis on s'attend à ce qu'il soit respecté. Et là, il est changé en cours de route. Et avec cette difficulté qui est que habituellement, quand on demande à faire des efforts dans le cadre de réformes qui se traduisent en général plutôt par une dépense de la baisse publique et un peu une pression, c'est de dire c'est pour que ça aille mieux et ça ira mieux plus tard et vous en récupérerez les fruits plus tard. Le problème avec une réforme des retraites, c'est qu'on demande à faire des efforts mais ça ira pas mieux plus tard puisque de toute façon on travaillera plus longtemps, donc on en paiera le prix à long terme. Et donc c'est pour ça qu'elles sont effectivement très mal perçues, ces réformes, parce qu'on a vraiment l'impression que tout le monde est perdant, parce que si on doit travailler plus, bah finalement c'est pas vu tellement comme un progrès.
Tiens, puisque Yael a évoqué tout à l'heure 95, je vais rester avec vous, Rémi Bourguignon. On a Evelyne en Picardie qui nous dit: en quoi peut-on comparer le niveau de mécontentement aujourd'hui avec celui de 95, qui à l'époque avait eu le soutien d'une partie de la population? Comme ça, au moins, on va écluser la comparaison avec 95. Elle est pertinente? On l'a fait ou pas du tout?
Alors, on peut faire cette comparaison. Alors, c'est vrai qu'on a un peu tendance à le faire à chaque fois qu'il y a une mobilisation sociale. Donc, on est démenti.
Quand on parle de convergence, on parle de 68. C'est terrible. On est
voilà,
tous encore.
C'est ça, exactement. Le contexte social a fortement changé. Ouais. Autant il y avait une capacité des organisations syndicales à mobiliser qui existait encore dans les années 90. On sort de quand même quelques décennies beaucoup plus compliquées pour les organisations syndicales et leur capacité à gérer un mouvement social est bien plus limitée. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, il y a à peu près 6 Français sur 10 qui ont l'air de soutenir la mobilisation. Mais quand vous leur demandez s'ils sont prêts, eux, à se mobiliser, le chiffre n'est pas du tout le même. On est plutôt à 3 Français sur 10.
Et quand on leur demande, Fabienne, s'ils soutiennent ou non les régimes spéciaux, ils sont à 7 sur 10 à dire non.
Ouais.
Donc il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les régimes spéciaux, non, mais la mobilisation, oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à quelque chose de beaucoup plus large, de Macron, ce qu'il incarne, sa politique.
C'est pour ça que le mécontentement est plus large et qu'après il y a un entonnoir, effectivement. Alors du coup, Éric Heyer, Rémi Bourguignon.
En fait, ça peut faire un lien avec 95, puisque 95, on avait conceptualisé la notion de grève par procuration.
Alors, j'allais vous demander, ça existe encore, ça, ou pas?
Oui, l'idée, c'était pas qu'en 95, les salariés étaient pour la défense des régimes spéciaux de retraite. Ouais. Simplement, ils voyaient dans la mobilisation des salariés à statut qui avaient une capacité de nuisance très forte, finalement, une défense de leurs propres intérêts, puisque, et c'est ça peut-être le point de comparaison avec 95, c'est qu'on essaye de réformer simultanément le régime général et les régimes spéciaux, alors que depuis 95, on en avait tiré des leçons, et je crois que les gouvernements ont toujours pris soin de réformer soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps pour éviter cet effet-là.
Et c'est le sens de la question de Nathalie dans l'Eure-et-Loir qui nous dit: le but final de cette réforme est-elle d'arriver à un équilibre financier des régimes de retraite ou à un changement global du système? Est-ce qu'on n'est pas là dans un mélange des genres? Et au fond, la clé, c'est vraiment celle-là, de ce que j'en ai compris moi, Éric Heyer.
C'est une des clés, disons que effectivement. Alors ça, on peut mettre un peu les évaluations du corps du Conseil d'orientation des retraites.
Le fameux paramétrique et systémique.
Ben ouais, c'est le fameux paramétrique. C'est-à-dire que au moment de la campagne présidentielle, le corps nous disait que à l'horizon 2025-2030, il y aurait plus en tout cas de déficit, et donc du coup, on pouvait raisonner. C'est plus la peine de raisonner sur les paramétriques. Enfin, il faut dire que le paramétrique bouge encore. Hein. C'est-à-dire que on a fait des réformes depuis 1993, des réformes de retraite qui bougent les paramétriques, et la dernière réforme fait que on va augmenter la durée de cotisation, c'est prévu. Aujourd'hui, c'est 41 années et demie, et en 2035, ça sera 43 ans. Donc, les paramètres continuent à bouger. Et donc, avec ces paramètres-là, le corps nous disait qu'on serait à l'équilibre. Là, les nouvelles projections disent non, il manque entre 8 et 17 milliards. Et donc, du coup, le gouvernement dit il va falloir, avant de faire la réforme systémique, faire une réforme paramétrique supplémentaire, c'est-à-dire aller encore plus loin dans soit la durée, soit l'âge.
Soit
les taux de cotisation,
pivot,
soit encore baisser les pensions. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler et dire aux Français, c'est qu'avant cette réforme systémique, avant n'importe quelle réforme, aujourd'hui, les pensions en relative vont baisser à peu près de 20% par rapport à aujourd'hui. À l'horizon 2040. Donc il y a bien aujourd'hui quand même intégré dans les projections le fait que les pensions vont être moins fortes en termes de pouvoir d'achat. Et ce que nous dit ce gouvernement, c'est qu'il va peut-être falloir aller encore un cran au-dessus, il va falloir trouver entre 8 et 17 milliards. Et donc du coup, on est en train d'agréger tous les mécontentements entre ceux qui voulaient pas le systémique, ceux qui voulaient bien le systémique mais pas le paramétrique. Là, d'un coup, tout le monde y trouve finalement moyen de protester.
Puisque Rémi Bourguignon a mis le pied dans les régimes spéciaux, il y a cette question à laquelle je ne sais pas répondre moi-même, donc je vais vous la poser à vous. Elle vient de François et qui dit « Est-ce qu'on peut nous expliquer réellement la différence entre le régime spécial de la RATP et le régime spécial de la SNCF ? Est-ce qu'il y en a une ou pas ?
Oui.
Ou pas ?»
Alors là, je suis désolé, j'ai pas tout révisé, mais effectivement, les ordres de grandeur que j'ai, c'est que c'est extrêmement favorable pour la RATP.
D'accord.
En termes, c'est sans doute le régime le plus favorable, mais encore une fois, c'est un contrat, hein. C'est-à-dire que
bien sûr.
Ils ont un régime de retraite favorable, mais ils ont forcément des salaires qui sont sans doute un peu plus faibles, et donc c'est bien quand je suis engagé, j'ai bien les deux, et tandis que le régime de la SNCF est certes un peu plus favorable que ce qu'on peut trouver dans le privé, mais moins favorable que la RATP. Donc si on doit mettre un degré, uniquement si on regarde les retraites, encore une fois, parce qu'il y a il y a des autres composantes.
Mais c'est là où le gouvernement retrouve un petit peu d'air dans sa communication. C'est quand il prend l'exemple justement de la RATP, qui compare des villes où le chauffeur de bus part à la retraite 5 ans plus tard qu'à Paris. Mais pourquoi donc ? Et c'est là où on en revient avec le contrat avec la nation. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, le contrat avec la nation, c'est justement que ce n'est pas à la nation de financer des régimes qui sont déficitaires aujourd'hui et spéciaux. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous, à moi, d'aller abonder un régime qui déjà dysfonctionne et catégoriel. C'est pour ça que le régime par points devient, dans l'esprit de cette réforme, le bon régime, le régime qui refait contrat avec la nation. Et c'est toute cette pédagogie-là qui aujourd'hui dysfonctionne aussi un petit peu au gouvernement. C'est très difficile de faire passer ce message. Chacun, comme c'est flou, chacun regarde ce qu'il risque de perdre, pense qu'il va perdre, alors qu'il y a peut-être aussi à un moment donné une remise à plat qui fait peur, mais qui peut être un nouveau contrat avec la nation.
En termes de perception, y compris la perception du grand public, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour la SNCF ou pour la RATP ? C'est-à-dire le moment où le ras-le-bol devient le plus important, où c'est beaucoup plus compliqué dans le quotidien, est-ce que c'est plus difficile pour la SNCF ou pour la RATP, Rémy Bourguignon ? Est-ce qu'on avait vu ça dans les grèves précédentes et notamment celle de 95 par exemple. Est-ce qu'on peut se dire que c'est plus difficile de tenir longtemps pour la RATP par rapport à la SNCF parce que la gêne est plus importante ou pas ? Ou pas du tout ?
La RATP, ce qu'il y a, c'est que ça marque beaucoup parce que c'est Paris et ça bloque Paris intramuros. Alors que quand c'est la SNCF, on a plutôt des blocages qui sont des blocages en région, qui sont sur les déplacements région Paris. Par contre, quand c'est la RATP, ça bloque Paris et les médias en parlent beaucoup plus, donc il y a une perception très très forte, mais en fait ça concerne essentiellement les Parisiens. Sur la capacité à tenir dans le long terme, je pense qu'ils ont des capacités à peu près similaires de ce point de vue-là, et la RATP a déjà envoyé un signal, en tout cas les agents ont envoyé un signal début septembre avec une première journée de grève qui avait été extrêmement remarquée, et qui montre leur détermination et peut-être leur capacité
à se mobiliser. Dans quelle mesure on peut dire que, réellement, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, les syndicats tiennent réellement ce mouvement? On sait bien que tous les mouvements précédents, la SNCF, c'était le cas le mois dernier par exemple, sont des mouvements qui sont partis de la base, et sur lesquels les syndicats ont dû se raccrocher. Est-ce que là, il s'agit aussi de faire une démonstration de force, qui est une vraie démonstration de force syndicale, j'ai presque envie de dire à l'ancienne, en fait, ou est-ce qu'il y a ce risque aussi que la base soit peut-être plus jusqu'au boutiste que le syndicat, j'allais dire ou l'inverse, qui est quand même assez rare.
Le sentiment qu'on a jusqu'ici, c'est qu'on est précisément dans un mouvement où la base semble être à l'initiative avant les organisations syndicales. Alors pour certaines organisations, celles qu'on qualifie habituellement de contestataires, elles ont pu raccrocher assez vite le mouvement, mais on voit la difficulté dans laquelle sont mises les organisations qu'on appelle habituellement réformistes ou plus modérées. Même la CFE-CGC appelle à la mobilisation, c'est quand même pas courant qu'un syndicat de cadres fasse ça. Et ils ont réagi en disant « sous la pression de notre base ».
Et la CFDT cheminots pareil, non ? Et la CFDT cheminots pareil, en fait.
Oui, alors là, il y avait effectivement un petit hiatus au début avec la CFDT qui était, au niveau national, plutôt favorable à cette réforme systémique, hein, attention, pas paramétrique.
Absolument.
Et la CFDT cheminots qui était un peu moins favorable. Mais à partir du moment où on a rajouté un peu une réforme paramétrique, où on met une durée, on met un âge pivot, alors ben voilà, ça cristallise. Il faut quand même rappeler que les cheminots ont déjà perdu, enfin la CFDT cheminots avait déjà perdu une première réforme de statut du cheminot. Bon voilà, peut-être que c'est aussi un trop-plein au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau. Ok, j'ai déjà cédé sur sur le statut. Là, en plus, je dois céder sur les retraites. Ben, c'est peut-être la goutte d'eau.
Mais est-ce que le mouvement en est changé désormais que effectivement les syndicats de cadres et aussi la CFDT cheminots rentrent dedans, en fait, Éric Ayer? Est-ce que ça change complètement la physionomie de ce que ce mouvement pourrait être, hein, ou pas?
Enfin, pas que la CFDT cheminots. Je pense que la CFDT aussi au niveau national maintenant devient un peu contre cette réforme-là.
Et c'est le premier syndicat de France.
Et c'est le premier syndicat de France. Et c'était l'allié en fait du gouvernement. Donc là, je pense que oui, on change un peu de statut. Mais
on revient effectivement sur le problème de tout à l'heure, c'est-à-dire que la CFDT, globalement, au niveau confédéral, était plutôt favorable à cette réforme. Mais à un moment donné, il manque d'arguments pour expliquer pourquoi ils y sont favorables. Parce qu'il faut être capable de dire qui sont les gagnants. Mmh. Et tant qu'on n'est pas capable de le dire, ben, ils sont mis sous la pression des gens, des fédérations qui perdent objectivement.
Yael. Ce qui durcit un petit peu le climat avec les syndicats aussi aujourd'hui, c'est qu'on est en plein paradoxe du fameux acte 2. Vous vous souvenez, à la rentrée, Emmanuel Macron dit plus de dialogue, plus d'humanité, plus de proximité ou réforme très concertée. Effectivement, il y a énormément de réunions. Delevoye a fait 350 réunions, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les éléments de langage qui sortent sont des éléments de langage assez brutaux. Vous avez entendu, tout le week-end, ça a commencé dans le JDD notamment avec Richard Ferrand qui parle des pleurnichards. Qu'est-ce que ça peut occasionner autrement que de braquer finalement les syndicats qui vont se sentir humiliés aussi par ces propos. Donc là, il y a un paradoxe entre cet acte 2 qui se voulait humain et de dialogue et dans la pratique des éléments de langage durs pour disqualifier les interlocuteurs qui pourtant sont ceux avec lesquels il faudra bien négocier à un moment donné.
Mais est-ce que vous diriez que, pardon Éric, je vous
interromps. Non mais on peut rajouter, je ne sais pas où vous mettez dans l'acte 2 la réforme de l'assurance chômage, parce que la réforme de l'assurance chômage, c'est bien un peu je ne veux plus discuter avec vous syndicats. C'est moi, État, qui reprend la main, enfin moi, Président, qui reprend la main. Je mets une aide de cadrage qui est impossible. Je sais que vous ne trouverez pas de solution. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une continuité de ce point de vue-là. Alors est-ce que c'était déjà dans l'acte 2? Et je comprends que les syndicats, au bout d'un moment, se sentent un peu
dépossédés.
Et donc ils essaient de reprendre la main.
Rémi Brugnon.
Effectivement, c'est une constante presque depuis le début. Et puis à la limite, quand on regarde le programme d'Emmanuel Macron, c'était quand même assez clair de ce point de vue-là.
Ça fait une différence avec 95. C'est que c'était pas des pommes et de la fracture sociale. Les choses étaient annoncées quand même par Emmanuel Macron.
Et dans cet élément, il y a un changement structurel dont on parle assez peu parce que c'est un sujet technique et difficile pour l'opinion publique, mais c'est qu'il y a une transformation structurelle qui s'opère à travers ça, c'est que l'État reprend la main sur un certain nombre de dossiers. Donc Éric rappelait sur la question de l'assurance chômage, où effectivement la manière dont s'est passée la dernière négociation, c'est de facto une reprise en main par l'État de ce régime qui est censé être paritaire, mais il faut pas oublier que quelques mois plus tôt, les syndicats ont perdu sur la formation professionnelle, qui était quand même un sujet important pour les organisations syndicales qui étaient gérées paritairement, ils l'ont perdu. Et là, si on va vers un régime fusionné de retraite, évidemment, la gouvernance ne sera pas paritaire, ce sera l'État qui décidera. Et donc, les organisations syndicales perdent encore une fois la main. Donc, c'est un recul du paritarisme en quelques années qui est historique et donc un changement assez lourd du modèle social français.
L'État et est-ce qu'on dit Emmanuel Macron en particulier, Yael, au fond? Parce qu'on a l'impression qu'un interlocuteur, il n'y en a qu'un, c'est lui. Est-ce qu'il est tout seul à la portée? Alors, on a bien vu qu'ils essayaient de échanger deux, trois choses avec le Premier ministre là récemment, très bien, mais au fond c'est contre lui que va se taper ce fameux mur du 5 décembre, non?
Oui,
d'autant, lui spécifiquement.
D'autant qu'on peut remonter à la campagne 2017, je crois que c'est le 2 mars quand il présente son programme, il a des mots très rudes sur ce que sont les syndicats dans son esprit, syndicats qui doivent rester dans l'accord d'entreprise au niveau micro, pas au niveau macro, c'est fini l'ère Hollande où on co-gérait avec la CFDT, les choses sont clairement dites, ou Bernard Thibault du temps de Nicolas Sarkozy. Vraiment, il veut se démarquer à ce moment-là et ne plus faire des accords interprofessionnels qui deviennent des lois ensuite. Non, c'est vraiment, je reprends la main et les syndicats travaillent dans le micro, dans l'entreprise, sur le terrain, pas au-delà. Ils n'ont pas à faire de la politique. Ils ne reflètent plus l'intérêt général, dit à l'époque Emmanuel Macron. Donc il y a tout ça derrière et c'est pour ça que c'est bourré de messages contradictoires depuis 2 ans et demi. Je me souviens de ce discours Versailles devant le Congrès, tous les parlementaires réunis le 9 juillet 2018, la République contractuelle. Je veux faire la République contractuelle, c'est-à-dire avec des corps intermédiaires solides avec qui je peux faire des choses, négocier et avancer et réformer. Aujourd'hui, Où elle est cette république contractuelle? Alors, à l'Élysée, on considère que les interlocuteurs ne sont peut-être plus légitimes, mais ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a, j'allais dire, pas de plan B, Yaël? Est-ce qu'on imagine qu'il y a une marge de négociation, oui. Quelque chose, ça ressemble à quoi?
Mais c'est là où il y a le match est intéressant à observer.
Où est-ce chacun qu'on lâche, en fait, au fond?
En tout cas, on n'aura pas le lâcher, on ne l'aura pas avant le 5 décembre.
Ah, sinon, bien ça, bien sûr.
Voilà, on mesure le mur, vous le disiez très bien en introduction, et après, on nous dit que dans 15 à 20 jours, donc juste avant les fêtes de Noël, il y aura une prise de parole importante ou d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron pour clarifier les choses et nous emmener sur les 6 mois d'écriture de la loi puisqu'on doit aboutir à l'été 2020. Donc là, les choses seront sans doute clarifiées. Est-ce qu'on mettra un peu plus de points pour les métiers pénibles, par exemple? Ça peut raccrocher la CFDT, typiquement. Laurent Berger, il tient beaucoup. Et si on distingue bien paramétrique, donc le budgétaire, l'équilibre financier et le systémique, la réforme à points,
on
là aussi,
on
peut rembarquer.
On décide de laisser le paramétrique sur le côté de la route.
C'était l'objet du déjeuner. Le déjeuner ce midi, c'était ça. C'était un débat.
Est-ce qu'on en lâchait en route, Carlo?
Est-ce qu'on fera pas le budgétaire un peu plus tard? On en parlera plus tard. On revient sur le systémique qui permet d'embarquer un contrat avec la nation. On en parlait. Est-ce qu'on scinde bien les deux? Est-ce qu'on séquence les deux? Voilà, tout ça est en gestation.
Allez-y, Eric Ayer.
Non, mais je pense que c'est important. Je pense qu'ils peuvent lâcher sur le paramétrique, dans le sens où ce que nous dit le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est que certes, il y aura un déficit du régime à l'horizon 2025-2030, mais pas si gros que cela. Enfin, en milliards, ça fait beaucoup, mais en points de PIB, ça fait à peu près 0,5 points de PIB. C'est pas non plus extraordinaire. Et surtout, ce que nous dit le COR, c'est que c'est pas les dépenses sur les retraites qui ont explosé. Non, au contraire, elles sont en stabilisation et même en dessous de 14 points de PIB. Mais c'est les recettes qui ne suivent pas. Et les recettes ne suivent pas à cause de l'action de l'État. C'est-à-dire que ce que nous dit le COR, c'est que contrairement à ce qui se produisait précédemment, lorsque le gouvernement votait une baisse de cotisation, admettons, donc ça faisait des recettes en moins pour les retraites, l'État compensait cela. Et bien là, vous voyez, pour la défiscalisation des heures supplémentaires, pas de compensation. Lorsque vous faites une prime de Noël, pas de compensation. Lorsque vous faites le forfait salarial, pas de compensation. Et même, ça va plus loin, lorsque vous réduisez le nombre de fonctionnaires, vous voyez, vous réduisez la masse salariale et donc moins de cotisations. Et donc, c'est ces éléments qui font qu'il y a finalement un déficit. Et donc, oui, mais ce déficit-là, qui est retraite, permet d'avoir moins de dépenses pour l'État et donc un déficit au sens maastrichtien, plus faible. Donc, ils peuvent dire, bon, finalement, c'est pas très grave. C'est qu'un jeu d'écriture. Le fait d'avoir moins de fonctionnaires, moins de masse salariale, ça nous fait faire des économies d'un côté. Ça creuse le déficit des retraites, mais ça, c'est pas un problème. On va tout mettre ça dans le même pot.
Rémi Bourguignon, il reprend une question.
Oui, je rebondis sur ce point parce qu'il est extrêmement important. Il permet de faire le lien avec ce qu'on disait précédemment sur la gouvernance du futur système. Le sentiment qu'il y a chez un certain nombre d'organisations syndicales, c'est que si l'État remet la main sur ce système et que c'est lui qui pilote, eh bien les retraites pourraient fluctuer au gré des politiques qui seraient conduites par les différents gouvernements, ce dont le système de retraite est aujourd'hui protégé par ce paritarisme qui est indépendant de l'agenda politique. Donc c'est ça l'enjeu de la gouvernance et il n'est pas négligeable.
Tiens, puisqu'on parlait de perdant-gagnant, cette question qui nous vient de Josette et qui dit « Quid des projets pour la retraite des médecins libéraux qui ont un régime autonome équilibré, déjà ponctionné par l'État pour combler un certain nombre de régimes déficitaires, dit-il. Qu'en sera-t-il des réserves qui sont des réserves importantes ? Dans le même ordre d'idée, on change totalement de profession. À propos des régimes spéciaux, est-ce que vous pourriez rappeler ou demander confirmation que le régime des retraites des électriciens gaziers, EDF par exemple, est excédentaire et finance le régime général ? Merci d'avance. » Y a-t-il des régimes qui financent les autres régimes,
oui,
Eric,
mais ça c'est
ce
normal, c'est une compensation démographique, donc de toute manière, vous voyez, on est quand même dans une assurance retraite, c'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, on met tout ça dans un pot commun et il y a une sorte de fait qu'il n'y a pas que du contributif, il y a aussi, on s'entraide. Et donc, vous voyez, les avocats, ils ont une démographie qui fait qu'ils ont très peu de cotisations et très peu de dépenses et ils ont beaucoup de recettes. Ils préparent l'avenir. Et donc, ça, on tient compte, pareil, mais on finance pour les paysans, enfin, les agriculteurs qui, eux, sont déficitaires. C'est normal, il y a un petit peu de solidarité là-dedans. Donc, oui, il y a beaucoup de régimes qui sont excédentaires et qui vont financer le régime général. là, aujourd'hui, est-ce qu'on met tout ça complètement dans un pot commun quand on est autonome? Bah, il faut rassurer ces personnes-là. Il faut dire aux avocats, mettons, qui sont largement excédentaires, bah, si on le fait, bien entendu, on vous assure quand la démographie va être en sens inverse, et ben, une retraite qui va être importante, et on peut, bah, augmenter vos droits tout de suite. Enfin, il va bien falloir, à un moment, compenser une partie des perdants. Sinon, bien sûr, cette réforme ne passera pas.
Yael, sur les régimes excédentaires, il y a eu deux clarifications cet automne. Hein. Une fois par Édouard Philippe, lorsqu'il a fait la rentrée du Modem fin septembre à Guidel, dans le Morbihan. Et ensuite, Emmanuel Macron, lorsqu'il rentrait de la Réunion, qui était interviewé dans l'avion par nos confrères d'RTL, il a dit « Non, on ne mettra pas la main à la pâte, on va fiche la paix, en fait, à ces régimes qui sont excédentaires. »
Et même de le voir ici, même au téléphone sonne, d'ailleurs, au sujet des avocats, dans mes souvenirs, qui avaient été très nombreux à téléphoner. Tiens, voilà Damian qui nous dit « Je suis salarié dans le privé. Je ne suis ni syndiqué ni partisan. Cependant, je manifesterai le 5 décembre pour nos services publics et nos acquis sociaux qui sont en danger. » Est-ce que, Rémi Bourguignon, est-ce que c'est une exception, Damian, au fond, ou est-ce qu'on peut imaginer que, oui, il y a une sorte de, une forme de, je ne dirais pas de contagion, en tout cas de solidarité du privé qui aussi peut manifester à ce moment-là?
C'est la question extrêmement importante de cette journée du 5. On a le sentiment que la stratégie du gouvernement, c'est d'attendre le 5, de démontrer que seuls les régimes spéciaux et les fonctionnaires se sont mobilisés, et que donc, et on l'a vu la rhétorique du week-end qui était là, qui était de dire, c'est bien une défense des régimes spéciaux, ce mouvement, et donc il n'est pas légitime. Donc, c'est une question importante, et on n'a pas la réponse, parce que si on avait la réponse, on saurait déjà ce qui va se passer derrière, mais il y aura des salariés du privé, probablement qu'ils seront quand même pas très nombreux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se mobiliser, c'est pas dans les modalités d'action. C'est d'ailleurs ce qui a fait hésiter les fameuses organisations dites réformistes à se mobiliser, c'est qu'elles ont une faible capacité. Alors la CFE-CGC a dit ok, on appelle à mobiliser, mais les adhérents de la CFE-CGC n'ont pas l'habitude de manifester, et quant à leurs sympathisants, encore moins. Donc il va y avoir une difficulté de ce point de vue-là, c'est que probablement ils seront peu nombreux dans la rue, mais plus il y en aura, et plus ça permettra de dire aux organisations syndicales, voyez, il y a cette fameuse grève par procuration qui se met en place.
Yael, la stratégie du gouvernement, c'est de renvoyer vraiment les revendications des adversaires, entre guillemets, uniquement à la question des retraites et des régimes spéciaux, alors que tout l'enjeu de ceux qui seront dans la rue le 5 décembre, c'est d'élargir au maximum le mot d'ordre, beaucoup plus large, à la défense d'un certain service public, puisque vous aurez aussi Air France, si je ne dis pas de bêtises, des hôpitaux, tout le monde n'est pas complètement satisfait du plan hôpital, et il y a même un mot d'ordre pour le 10 décembre, en plus du 5, et vous avez les enseignants aussi. Donc c'est beaucoup plus large, a priori, que ce que le gouvernement tente de cornériser dans le seul intitulé régime spéciaux retraite.
Voilà une question de Marilyn qui vient à chaque fois qu'on fait un sujet sur les retraites, donc je vous la repose. Est-ce que le régime des parlementaires est touché, lui aussi?
Oui, je crois qu'il a déjà été touché. Ouais. Mais là, je vais réviser mes fiches, je reviendrai vers vous, je referai un mail à votre auditrice.
Mais c'était la réponse qu'avait fait Jean-Paul Delevoye aussi, je crois, dans mes souvenirs au téléphone sonne, sur le fait que vous avez déjà été touché.
C'est pas un compliment.
J'essaie moi aussi de m'en souvenir, en fait.
Il y a 42 régimes, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, en fait, globalement, c'est 2-3 gros régimes qui vont être des gros perdants. Après, tous ces petits régimes, en termes de masse, ça fait vraiment pas grand-chose. Et donc, oui, il faut en termes d'équité les regarder, mais vous voyez, c'est en fait ce qui est important, c'est effectivement les fonctionnaires et notamment les enseignants et l'hôpital, et ça va faire, et après tous les cheminots, mais après tous les régimes, Banque de France, etc. On touche quand même sur, on rentre vraiment dans un détail.
Bonsoir, nous dit ce monsieur. Pour nous, agriculteurs, la retraite à points universels serait une aubaine. L'arrêt des régimes spéciaux est normal, un peu d'égalité, que diable, et de solidarité, nous dit-il.
Alors il y a déjà la solidarité quand même. Il faut quand même qu'ils aient en tête que aujourd'hui, leur système, si c'était que les agriculteurs qui devaient financer leur système, ça ne fonctionnerait pas. Donc il y a déjà de la solidarité dans le système actuel. Alors on peut aller encore plus loin dans cette solidarité. Il n'est pas dit que le régime à points purs soit plus solidaire.
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un fonds de péréquation pour compenser les illégalités femmes-hommes? Rémi Bourguignon, est-ce que ça a un sens, cette question d'Anna sur franceinter.fr ou pas?
Je ne veux pas vous
bloquer autour de la question d'Anna.
Non, mais globalement, ce qu'on peut dire, hein, tout de même, c'est que les inégalités femmes-hommes, d'un point de vue du salaire, sont beaucoup plus élevées que les inégalités hommes-femmes, d'un point de vue des retraites. Donc ça veut dire qu'on compense aujourd'hui, en partie, pas complètement, mais en partie, les inégalités, parce que on prend en compte cela. Alors, est-ce qu'on est allé suffisamment loin dans la réduction des inégalités? Je ne pense pas, mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que les retraites compensent une partie des inégalités qu'il y a eu pendant l'activité.
J'ai la réponse sur les retraites des parlementaires.
Allez-y, bravo.
Depuis le 1er janvier 2018, il y a eu une réforme donc assez récente. Leur régime est affilié sur celui, aligné sur celui de la fonction publique. Ils doivent donc cotiser pendant plus de 40 ans pour obtenir la retraite à taux plein. Avant le 1er janvier 2018, ils avaient un régime spécial, effectivement, qui leur permettait d'en bénéficier au bout de 31 années de cotisation et non pas 40. Tout ça, c'est fini. Donc, ils se sont alignés sur les fonctions publiques. Ils ont fait l'effort, eux aussi, les parlementaires. Donc, pas de poujadisme.
Oui, mais ils sont quand même dans un régime spécial.
Oui, mais moins spécial qu'il ne l'était avant 2018.
Je suis professeur et j'ai 50 ans, nous dit cet auditeur sur franceinter.fr qui nous dit le nouveau système va me faire perdre 30% de ma retraite. Et donc pour moi, c'est une réelle déclaration de guerre. Donc parler des gagnants-perdants, Éric Heyer, voilà le perdant.
C'est une catastrophe pour les enseignants. Vous voyez, on peut considérer que le haut fonctionnaire de catégorie A, lui, ne va pas y perdre. Parce que globalement, il a des primes, et donc on va réintégrer les primes. Son taux de remplacement sera plus faible, mais globalement, ça va pas bouger. En revanche, l'enseignant qui n'avait pas de primes, alors lui, il va perdre, effectivement. Enfin, moi, j'avais plutôt 26%, mais allez, arrondissons à 30%. Raison. Et donc, l'idée, il faut au moins les compenser d'un point de vue du salaire. Mais on voit bien que celui qui a 50 ans, comme l'auditeur, si on le compense les 15 dernières années, il va quand même y perdre au total. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Parce qu'effectivement, ça va être eux les énormes perdants. Et là, ça peut... Vous voyez, si aujourd'hui, on met l'éducation un peu en avant en disant il nous faut quand même que nos enfants soient bien éduqués, donc il faut que les professeurs soient bien considérés et bien rémunérés, cette réforme-là va pas dans le bon sens.
Tiens, ça c'est une question d'Anna qui vient de Colmar et qui nous demande si l'application stricto sensu de cette fameuse clause du grand-père est l'élément qui peut aussi débloquer la situation. Est-ce qu'on en est toujours là, j'ai presque envie de dire, est-ce que ça peut débloquer une situation où on a l'impression que c'est presque un vieux débat désormais, la clause du grand-père?
C'est pas évident. Alors bon, pour le moment, elle a été quand même plutôt mise de côté. Donc, mais avec les mouvements et la négociation, il y a eu tellement de revirements qu'il serait pas impossible que ça revienne. Alors, elle est compliquée cette clause du grand-père parce que bon, c'est Gérard Darmanin qui disait que ça serait repoussé la réforme
de 40 ans.
Mais ça veut dire que ça créerait une période de 30 à 40 ans dans laquelle, pour le coup, on aurait un problème de gouvernance majeur parce que on aurait un régime qui traiterait les nouveaux entrants dans le système et puis un régime qui traiterait ceux qui sont encore dans l'ancien système avec des équilibres financiers qui seraient à ce moment-là absolument impossibles à trouver. Donc, il y a un vrai problème technique de faisabilité. Et sur le plan social, eh bien, on ne sait pas trop comment est perçu parce que c'est quand même dire aux Français, vous sacrifiez la génération d'après pour sauver votre situation à vous. Et il n'est pas sûr que ce soit une idée qui fasse totalement consensus. En tout cas, symboliquement, reconnaître qu'il faille une clause du grand-père, c'est reconnaître que c'est une réforme qui est perdante pour les Français, puisque si elle est vraiment gagnante, si vraiment il y a des gagnants et qu'il y a plus de justice, alors il n'y a aucune raison d'aller le reporter de 30 ou 40 ans. Donc il y aurait une contradiction dans l'argumentaire entre le fait de dire la réforme est porteuse de justice, mais en même temps on l'appliquera que dans 30 ou 40 ans. Donc ça tient pas.
Clause de grand-père, je vais le rappeler juste en un mot pour les auditeurs si ça leur a échappé, c'est donc appliquer le nouveau régime pour ceux qui entrent et pas pour ceux qui sont à l'intérieur. Il y a même un entre-deux, si j'ai bien compris, Yael, parce qu'on s'est posé la question à un moment de savoir si c'était génération 63, génération 73. Donc l'entre-deux, c'est de changer le curseur au fond à l'intérieur de l'entreprise.
C'est-à-dire la clause du père ou du grand-fils, du cousin, je sais pas. Bref, non, mais c'est une carte qui a été abattue beaucoup trop tôt dans le mécanisme de débat et de négociation qu'avait lancé le gouvernement en septembre. D'ailleurs, Jean-Paul Delevoye lui-même s'est très vite arc-bouté en disant mais si on fait ça, à quoi bon avoir mené autant de grands débats sur les retraites? Dans ce cas-là, il n'y a pas de réforme mise en œuvre à court terme. Donc c'est comme si on repoussait les réformes. Et pourtant, vous en avez un qui est un visiteur du soir qui pousse régulièrement, c'est Alain Minc, l'essayiste Alain Minc, qui dès octobre dit à l'Élysée, c'est la seule solution pour vous en sortir, sinon vous aurez 95, et qui a recommencé là le week-end dernier dans le Parisien en disant c'est impossible d'éviter un choc social et un conflit social majeur si vous ne faites pas ça. Ben, on verra, normalement c'était une solution de sortie de secours, c'était pas une solution d'entrée dans le débat.
Au stade où nous en sommes là, et ce sera notre dernière question, est-ce que désormais d'un côté comme de l'autre, on attend le il faut attendre et voir et on verra bien ce qui se passera. Ou est-ce qu'il peut encore se passer des choses dans cette semaine-là? Ou est-ce que c'est vraiment une semaine vide où chacun va s'observer et regarder, comme je disais tout à l'heure, la hauteur du mur, en quelque sorte, Rémi Bourguignon?
Oui,
c'est la fin.
Si les acteurs avaient dû bouger avant dans la négociation, ils l'auraient déjà fait. Désormais, je pense qu'effectivement, on est dans une période où on va attendre de voir. C'est un peu des méthodes à l'ancienne qui consistent à attendre le conflit pour pouvoir mesurer les forces et agir en fonction. Donc, pour une réforme qui s'inspire du modèle suédois, paraît-il, c'est assez étrange comme méthode.
Ouais. Et ben, en tout cas, on en refera des téléphones sonnent peut-être même d'ici au 5. Il y a toutes les chances. Mais merci beaucoup et portez-vous bien.